Bonjour André.
Bonjour.
Donc on voulait vous poser quelques petites questions. Donc on va faire l'interview en français, ce sera plus simple pour nos auditeurs français. Ma première question, ce serait, pouvez-vous vous présenter rapidement?
Bien, je vais essayer. Je suis né dans une famille paysanne, dans la commune de Montsalaise, dans l'Aveyron. Et comme j'étais plutôt bon à l'école et que mon père était intéressé aussi par les affaires intellectuelles, il m'a permis d'aller au collège, ce qui était assez exceptionnel à l'époque pour des enfants de paysans. Et là, je m'en suis assez bien sorti, même si j'étais très dépaysé au départ, au milieu des bourgeois qui, à ce moment-là, étaient la principale population des collèges. Comme j'avais eu de bons résultats dans le secondaire, on m'a suggéré de faire des classes préparatoires pour les grandes écoles. J'ai fait donc Maths-Sup à Toulouse et ensuite Maths-Sp. Et en première année de Maths-Sp, ce qui est assez original, je suis entré dans une grande école d'ingénieurs, une école de chimie à Nancy, mais j'avais rencontré l'espérance déjà à Toulouse, deuxième année au lycée, en classe de spécial.
Donc c'était quelque chose qui était enseigné à l'école.
Il se trouve que un lycéen dont j'ai perdu contact rapidement, qui était dans une autre classe, qui n'avait rien à voir avec la mienne, mais par hasard, on s'est rencontrés, bien qu'il ne soit pas dans ma classe, et il avait des tas de documents pour les différentes langues artificielles dont on parlait à ce moment-là. Et parmi tous les documents qu'il m'a prêtés, il m'a semblé que l'espéranto était celle qui allait le mieux. Et j'ai donc, avec les documents qu'il m'a prêtés, commencé à apprendre ce que c'était, apprendre l'espéranto. Je suis tombé sur un petit livre de Gaston Varenguin qu'il avait écrit pendant la guerre, quand il était prisonnier, et qui était une très bonne présentation, à mon goût, de l'espéranto. Très, très intéressant comme façon de présenter la langue et ça m'a séduit et j'ai commencé avec ça à l'apprendre. Ensuite, je suis allé à quelques réunions du groupe d'espérantistes de Toulouse.
Mais la langue elle-même, du coup, vous l'avez appris tout seul en autodidacte?
Je l'ai appris, oui, en grande partie tout seul en autodidacte. C'est-à-dire qu'en classe de mathématiques spéciales, on est supposé avoir beaucoup, beaucoup de travail, mais tous les soirs, avant de m'endormir, je trouvais le moyen de lire quelques paragraphes du livre de Varenguin sur l'espéranto. Et c'est comme ça que j'ai acquis les bases de l'espéranto.
C'est impressionnant de réussir à jongler avec une prépa maths et en plus apprendre une nouvelle langue sur le côté.
Mais j'étais quand même peut-être assez doué par les langues, peut-être parce que j'en ai déjà eu plusieurs très vite, puisque ma langue maternelle c'était l'occitan de la région. Et à 5 ans, je suis allé au collège, à l'école primaire où il a fallu apprendre le français. Je ne me souviens pas d'avoir jamais appris le français, donc ça n'a pas dû me poser beaucoup de problèmes. Ensuite, j'ai appris l'anglais, que je pense qui était mal enseigné, parce que j'ai eu beaucoup de mal à démarrer en anglais. Par contre, en quatrième, j'ai démarré l'espagnol, ça s'est très très bien passé. Et d'ailleurs, j'ai passé le concours général d'espagnol l'année du bac.
Du coup, ça vous fait combien de temps, combien de langues en tout? L'occitan, le français, l'anglais, l'espagnol, l'espéranto, c'est tout? Il y en a encore d'autres?
Pas vraiment, j'ai quelques notions d'allemand.
Cinq langues parlées bien, c'est déjà impressionnant.
Je parlais couramment l'espagnol quand j'ai passé le bac. J'aimais
D'accord.
beaucoup l'espagnol. J'ai eu un très bon professeur, je pense, et je maîtrisais très bien la langue. Mais quand je me suis mis à apprendre l'espéranto, la sonorité de l'espéranto et celle de l'espagnol étant très voisines, je suppose que c'est à cause de ça, j'ai très vite perdu l'espagnol. C'était les mots espéranto qui me venaient plutôt que le mot espagnol quand je cherchais.
Du coup, j'avais une question subsidiaire, c'était pourquoi l'espéranto?
Mais ce qui m'a attiré, c'est l'idée que les gens puissent se communiquer dans le monde entier. J'avais déjà à ce moment-là beaucoup travaillé sur les langues, donc j'avais appris le latin aussi. Je ne parle pas le latin. Mais j'avais donc appris d'abord à parler occitan à la maison, j'avais appris le français, et puis l'anglais et le latin à partir de la sixième, l'espagnol en quatrième, et ça faisait beaucoup de langues, et je me rendais compte que même avec toutes ces langues, je ne parlais pas avec beaucoup de monde. Et donc l'idée d'avoir une langue internationale que tout le monde apprendrait, qui serait plus facile, parce que quand même la grammaire latine ou la grammaire française, c'est compliqué. Donc une langue logique, bien construite, facile à apprendre, ça me paraissait très séduisant. Donc l'idée interne de l'espéranto, comme on dit, me paraissait très intéressante. Et ça m'a passionné et ça n'a pas arrêté jusqu'à ce jour.
Et du coup, vous nous avez expliqué comment vous aviez rencontré la langue espéranto et comment ça s'est passé, vos premières rencontres avec des espérantistes.
Alors, ma première rencontre des espérantistes, Je suis allé à Toulouse à un club d'espéranto, de commencer à baragouiner un peu en espéranto parce que j'étais quand même débutant. Mais donc c'est là que j'ai commencé à avoir des relations avec les espérantistes. Ensuite, à partir de là, donc c'est la dernière année où j'étais à Toulouse. Je suis ensuite allé à Nancy. J'étais à l'école de chimie de Nancy. Là, il y avait un groupe très actif dans lequel je me suis inscrit, un groupe qui était rattaché à SAT. Et donc là, j'ai rencontré quelques espérantistes. Il y avait des réunions hebdomadaires auxquelles je participais, avec des gens qui avaient des activités diverses. Il y avait un peu de cours en quelque sorte, chaque réunion hebdomadaire, plus de diverses activités qui m'ont permis de me perfectionner. Mais enfin, j'ai beaucoup travaillé tout seul aussi pour me perfectionner, parce que j'étais passionné par la construction de la langue, l'idée de la langue. Ça me paraissait une très très bonne idée qui méritait de l'approfondir. Alors, je n'ai pas encore répondu à votre question. J'ai dû correspondre sans doute quelque peu avec des espérantistes européens. Je crois avoir eu un correspondant dans l'Europe de l'Est, plus en Hongrie peut-être, ou je sais pas, ce qui à l'époque était assez original, puisque il y avait les rideaux de fer entre. Et puis, alors le principal événement finalement à l'époque, c'est le congrès de SAT qui a eu lieu à Nancy, pendant que j'étais à l'école de chimie à Nancy.
Et c'était en quelle année du coup ce congrès-là?
Ça devait être un congrès de 54, sans doute, congrès de
54.
54. Où il y avait foule. Il y avait foule par rapport au congrès de SAT actuel, où il n'y a presque personne. C'était vraiment. Il y avait foule. Je ne me souviens plus du nombre de personnes, mais c'était très important. Et je faisais partie donc du comité d'organisation, on n'était pas nombreux. Et donc là, pendant une semaine, je n'ai parlé qu'espéranto. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, je ne savais plus parler français, pour ainsi dire. Je parlais sûrement pas très bien l'espéranto à ce moment-là, mais enfin les gens me comprenaient. Et donc c'est là que j'ai eu des contacts avec un peu tout le monde. Auparavant, donc j'étais à Nancy à ce moment-là. Auparavant, le groupe de Nancy auquel je participais m'avait envoyé en mission à Hollande pour faire la publicité pour le congrès de Nancy, puisque le congrès international de SAT avait lieu à Nancy cette année-là. Je ne l'ai pas bien précisé, c'est encore international de SAT. Et donc j'ai passé une semaine à Hollande, aller d'une famille à l'autre pour des réunions, des soirées où je présentais Nancy. Le club de photographie de Nancy a été mis à contribution pour me prêter des diapositives. C'était un peu déjà nouveau les diapositives à cette époque-là, tout le monde n'en faisait pas. Et donc j'avais un projecteur et un jeu de diapositives pour présenter aux Hollandais le Nancy, comme c'était beau, comme ça valait la peine de le voir à l'occasion du congrès.
Et faire la publicité.
Je faisais la publicité pour l'espéranto à Nancy. Donc c'était une occasion d'avoir un bain vraiment dans l'espéranto, puisque j'allais d'une famille à l'autre avec comme langue de communication uniquement l'espéranto.
Et vous avez déjà les contacts grâce à Passeport à cerveau, ou c'était différent?
Non, non, c'était sans rapport avec Passeport.
D'accord.
Je ne sais même pas si ça existait à ce moment-là, c'était en 54. En tout cas, je l'ai très peu utilisé, Passeport à cerveau.
En tout cas, apparemment, vous avez bien fait votre travail de publicité, puisqu'il y a du monde
Et il y a eu
qui était au
beaucoup de monde,
rendez-vous.
c'est vrai. Et le congrès lui-même était très intéressant, parce qu'en plus des visites que j'ai guidées, etc., j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens de l'Europe de l'Est. Il y avait des Yougoslaves qui étaient assez nombreux au congrès, puisque le rideau de fer n'incluait pas la Yougoslavie, qui avait pris un peu son indépendance par rapport à la Russie. Et donc c'était passionnant de discuter avec des gens de l'Europe de l'Est, donc qui racontaient un peu ce qui a pu se passer aussi chez eux. Ça m'a confirmé dans l'intérêt d'apprendre l'espéranto, ce qui permettait des contacts qu'on ne peut pas imaginer autrement.
Ça a été le premier congrès international, mais ça n'a sûrement pas été le dernier.
Je n'ai pas fait beaucoup de congrès. C'est peut-être le plus important que j'ai jamais fait. J'ai été des congrès en France ensuite, mais je n'ai pas fait d'autres congrès internationaux.
Mais vous avez rencontré des gens?
Mais j'ai rencontré des gens, oui. Alors j'ai rencontré des gens. Et déjà à la suite de ça, à la fin des études, puisqu'en 55, donc j'ai terminé mes études à Nancy. Et en fin d'études, on avait fait un voyage organisé un peu à l'étranger, en Allemagne et en Suède. Et j'en ai profité pour rencontrer des espérantistes dans les villes où nous arrêtions avec un groupe d'élèves de cette promotion. Et j'ai eu une rencontre intéressante en Allemagne avec un vieux militant espérantiste. J'ai rencontré une autre famille en Suède. C'était des contacts intéressants.
Mais comment vous aviez leur contact comment vous trouviez leur contact à l'époque?
Nous, on est la génération Internet.
Voilà, donc c'est
Mais
pour ça.
comment les gens faisaient avant Facebook et compagnie?
C'était très bien. On avait les annuaires qui donnaient la liste des espérantistes de chaque ville. Et si on voulait avoir un contact dans cette ville, on pouvait s'adresser directement. On avait l'adresse du du délégué. Chaque ville de l'annuaire avait un délégué. Il y avait la liste des membres et un délégué était. Donc on pouvait contacter le délégué et lui dire j'arrive tel jour dans votre ville, est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part. Alors je ne me souviens plus si mes contacts en Allemagne et en Suède, c'était moi-même qui les avais organisés ou si c'était le responsable de Nancy qui l'avait fait pour moi, je ne me souviens plus maintenant. En tout cas, j'ai eu des entretiens intéressants avec un Allemand de quelle ville c'était. Une famille, comme beaucoup de familles allemandes sans doute, qui avait un frère qui était très engagé avec le régime nazi et qui donc n'était plus en Allemagne parce qu'il n'était pas le bienvenu en Allemagne en 1955. On sait maintenant que beaucoup d'anciens nazis sont des ministres en Allemagne après, mais c'est un peu plus tard. Il fallait que ça se tasse. Donc j'ai eu des contacts intéressants en Suède. J'ai vu aussi, je crois que c'est en Suède, j'ai vu aussi une façon de vivre qui était surprenante pour des Français. C'était un couple divorcé qui se rencontrait avec les enfants dimanche après-midi. Je faisais partie de la rencontre, malgré tout, je me trouvais là. Et ça ne se faisait pas encore en France, ce genre de choses. Oui. Des gens divorcés qui se rencontrent avec les enfants temps à autre pour aller à la plage.
Oui, donc ça fait au moins 60 ans que vous parlez espéranto.
Eh bien oui, j'ai commencé en 50, au début de l'année 52.
Ouais, bah ça nous fait quoi, 70 ans? tout rond.
J'avais 20 ans et j'en ai 90, donc ça fait 70 ans.
Oui, effectivement.
Espéranto était beaucoup plus jeune que maintenant à cette époque-là. Pas encore de gros dictionnaire d'espéranto.
Ah bah ça a progressé, c'est pas plus mal.
Oui.
Nous, on vous a rencontré dans le cadre d'une visite à Villefranche-sur-Rouergue pour visionner votre film, donc Les Paysans de Rouergue. Je ne vais pas tenter de le dire en occitan parce que j'ai sûrement un accent en France. Et donc ce film est disponible en occitan et en français et avec des sous-titres français, occitan, espéranto et anglais.
Eh bien, le producteur de ce film, Amik Bedel, savait que je pratiquais l'espéranto et c'est lui qui m'a proposé de faire des sous-titres en espéranto. Et j'ai fait volontiers. Ça me paraît une très bonne idée. Et j'ai essayé d'en vendre à l'étranger par l'intermédiaire des associations d'espéranto. Je n'ai pas l'impression que ça a eu beaucoup de succès, mais on n'a peut-être pas fait de publicité. J'en ai envoyé 10, enfin le producteur, Amik Bedel, en a envoyé 10 à l'Association universelle d'espéranto, qui a son siège à Rotterdam. J'ai eu un contact avec un des responsables à ce sujet, qui m'a dit qu'il avait trouvé très intéressant, un des dirigeants de l'Association universelle d'espéranto. Et puis j'ai su qu'il en était vendu un, au moins. Il en avait acheté 10.
Oui, mais du coup, comment vous est venue l'idée de faire ce film? Parce que vous filmiez déjà le quotidien donc, de votre famille ou du voisinage. Mais pourquoi vous avez commencé à faire ça?
Bon, lorsque Christian-Pierre Bedel a fait le tour de tous les cantons de l'Aveyron pour proposer de faire des films consacrés à chaque canton. Et puis, donc, il a dit qu'il collectait des informations sur la vie d'autrefois. Et je lui ai dit que j'avais filmé des choses et qu'à l'époque, donc c'était les années 90, à l'époque, ça avait déjà 30 ans, ou 20, 30 ans, donc c'était déjà ancien à cette époque-là. Donc, j'ai dit que j'avais des documents qui décrivaient la vie des paysans des années 60.
Il cherchait des informations, pour vous, aviez toute une pile de films d'époque.
Il a été très intéressé. J'avais une vingtaine de bobines de 120 mètres, les bobines les plus grosses qui se faisaient en format 8 mm. Et oui, j'ai acheté la caméra 8 mm en 63 par là. Et donc, j'avais fait des montages déjà, j'avais monté des films de famille d'une part, qui étaient strictement familiaux, et puis d'autre part, j'avais monté des films plutôt documentaires sur la vie paysanne. Et j'avais donc, je ne me souviens plus maintenant exactement, mais j'avais dû avoir au moins 4 heures, sinon plus, de film, de documentation, de documentaire, en quelque sorte, sur la vie paysanne de l'Aveyron.
Alors, même avant qu'il vienne frapper à votre porte, vous aviez déjà en tête de faire un...
Je l'avais fait dans les années 60. C'était 63, à la dernière reprise, c'est 71 peut-être, mais le plus gros a été fait de 63 à 70. J'avais essayé de filmer toutes les principales opérations qui se faisaient à la campagne, tout ce que j'avais pu. La seule chose que je n'ai pas pu filmer, c'est ce qui se passait à l'intérieur des étables, parce que les étables étaient très sombres. J'ai essayé de filmer, mais en fait, heureusement que le veau que j'ai filmé était noir et blanc, on voyait quelques taches blanches qui se promenaient. C'était pas suffisant pour faire un documentaire sérieux.
Mais oui, du coup, dès le départ, vous vouliez pas seulement filmer des moments en famille, quoi. Vous vouliez vraiment sauvegarder sauvegarder la vie paysanne, les pratiques agricoles.
C'était une opération de sauvegarde parce que je voyais que la vie était en train de changer très vite, très vite, très très vite. Dans les années 60, on a vu disparaître peu à peu les bœufs et remplacés par des tracteurs. On a vu les champs s'agrandir, les fermes s'agrandir, la spécialisation des gens, ça changeait très vite. Alors, j'ai eu l'intention tout de suite de garder des traces de cette vie qui était en train de disparaître. Et puis, donc, je l'avais monté à ma manière par sujet. Et donc, ça fait un certain nombre de bobines. Et puis, j'avais fait un commentaire en français que j'avais réussi à imprimer avec les moyens du bord. Ce n'était pas très perfectionné à ce moment-là, mais enfin, ça marchait. Et puis, je les avais en boîte et c'est tout. Et donc, lorsque Christian-Pierre Bedel a voulu collecter des documents, je lui ai proposé. Et il en a fait une copie. Et puis, il a essayé de convaincre son fils qui débutait en production de films, de s'intéresser à ça. Alors ça traînait pendant assez longtemps. D'une part, Christian-Pierre Bedel a utilisé certains de mes films pour compléter les documentaires qu'il a fait sur les différentes régions. Donc il a fait des savants en montage entre les images que j'avais données et les commentaires qu'il avait enregistrés d'autres personnes. Et il se trouve qu'il y a en particulier un document sur la quand on fond les canards, je crois, ou quelque chose comme ça, une opération de cuisson de viande, mes images avec le commentaire d'une dame qui colle très bien. Je crois que c'est Lafont qui a succédé à Christian-Pierre Bedel, Lafont qui a fait ce travail de montage, d'arriver à faire coller le commentaire de cette dame avec les images que j'avais prises. Donc Christian-Pierre Bedel a d'abord utilisé des extraits de mes bobines pour meubler ces documents pour le Conseil général de l'Aveyron, donc pour l'opération El Conto. Et puis finalement, de temps en temps, il me disait qu'il poussait son fils à s'intéresser à ses films, mais ça tardait, il avait toujours quelque chose à faire. Il s'appelle Amic Bedel. Et puis finalement, il a commencé à s'en occuper, alors il est venu filmer lui-même, parce que Christian-Pierre Bedel faisait faire des copies par des boîtes à l'extérieur qui faisaient ça automatiquement avec des machines. Son fils, Amic Bedel, est assez perfectionniste, il a voulu faire lui-même la copie à sa manière, et c'est vrai qu'il a fait de très bonnes copies. Mais seulement, il avait fait les copies, mais ça ne sortait pas. Enfin, finalement, il a réussi à se mettre à y travailler, et puis il a donc condensé ça en le film. Alors, il a ajouté un commentaire au début, et puis, bon, vous l'avez vu hier, et puis les images moi-même, quand ça fait dans les 120 minutes, ça fait deux bonnes heures, et deux bonnes heures de film. C'est pas, hein. le film que vous avez vu hier, c'est une partie, c'est beaucoup plus long.
Bah, cela dit, le projet, il était quand même utile, parce que la moitié des pratiques agricoles et tout qui étaient montrées dans le film hier, j'avais aucune idée de ce que c'était ou de à quoi elles servaient.
Elles ont disparu. S'il y avait une crise, et ça risque d'arriver avec l'affaire de la Russie actuellement, s'il y avait une crise comme en 40, les gens seraient dans la misère, parce qu'à ce moment-là, on était très autonomes à la campagne.
Non, je savais que les bœufs, on les avait utilisés évidemment pour labourer les champs et tout, mais le labour, le surlabour, la façon, les différentes charrues et tout, effectivement, c'est des pratiques qu'on... Ça a été totalement perdu lors de la modernisation. Pardon.
La modernisation fragilise énormément la société parce qu'on est très dépendant de l'extérieur. Les gens ne savent plus faire grand-chose finalement. Donc ces films étaient montés par l'équipe d'Amic Bedel, notamment Lila Freis, qui a beaucoup travaillé dessus. Donc ils ont fait une bonne condensation de ce travail. Je dis qu'au départ, il y avait largement 4 heures. Ils ont ramené ça à 1h30, 2 heures environ. Sans perdre, à mon avis, sans rien perdre d'important, parce que je retrouve pas quelques personnes qui ont disparu, mais je retrouve l'essentiel de ce que j'avais voulu mettre en mémoire, dans ce qui a été retenu. Et puis, alors, ce qui a précipité les choses, c'est anecdotique, ça. C'est qu'il n'arrivait pas à finir, Amic Bedel, et finalement, quelqu'un lui a demandé de présenter ce film à l'occasion d'une des semaines à Villefranche. Tous les ans, à Villefranche, il y a une sorte de fête de l'Occitan. Il a demandé de présenter ce film pour la fête de l'Occitan. Et le film n'était pas encore monté complètement.
Et du coup, il a dû dépêcher un peu...
Il a fallu accélérer, et tellement que... il avait peut-être présenté un dimanche, un dimanche, je crois, enfin un jour, fixé à Villefranche. Et la veille, le film était encore à Prague. Alors le père Bedel, Christian-Pierre Bedel, est parti en voiture à Prague chercher le film pour pouvoir le vendre.
Ah, il était déterminé. Le jour de la présentation. Et sinon, juste, on va conclure. Est-ce qu'il y a des anecdotes amusantes ou des moments amusants qui vous ont marqué avec l'espéranto?
Ah oui, sans doute, mais il faudrait que je me souvienne. Vous savez, à mon âge, vous le connaissez maintenant, la mémoire ne fonctionne pas toujours aussi bien que... Alors, oui, il y a des choses sans doute qui sont remarquables. J'ai fait des rencontres intéressantes. On rencontre des personnages dans les congrès. J'ai rencontré, par exemple, un monsieur qui prétendait parler une trentaine de langues, je crois. Et plusieurs personnes m'ont dit qu'ils avaient essayé de le prendre en défaut, qu'ils n'avaient jamais réussi. Effectivement, toutes les langues qu'il prétendait parler... Il savait qu'effectivement, il les parlait.
Ah oui, d'accord.
C'est plus impressionnant.
Oui, je voyais la chute différemment.
Alors, je ne sais pas, je n'ai pas contrôlé moi-même, je ne connaissais pas suffisamment de langue pour le savoir.
Ce genre de personne, je pense que ça devient un jeu au bout d'un moment. Trouver quelqu'un qui parle une langue, vas-y, teste-le.
Oui, alors qu'est-ce que j'ai fait comme rencontre intéressante? Bon, mais j'ai eu l'occasion de voir dans les congrès Zaleski Zamenhof, donc le petit-fils de Zamenhof. Qui avait participé à la construction du pont de Normandie, je crois, puisqu'il était un des ponts des chaussées. Il ne parlait pas l'espéranto parfaitement, mais très bien quand même. Mm-hmm. Il faisait quelques erreurs aussi. Évidemment, il avait longtemps vécu en France, donc c'était vraiment intéressé à l'espéranto de nouveau qu'à la retraite ou peu avant, donc il n'était pas un spécialiste de l'espéranto en quelque sorte, mais il le parlait très couramment. Disons que le souvenir que j'ai eu, c'est que la première fois que je l'ai vu, c'était à Boulogne, où on avait commémoré, 100 ans après, le premier congrès d'espéranto qui a eu lieu à Boulogne-sur-Mer. C'est là que j'ai vu pour la première fois le Zaleski Zamenhof.
Est-ce que vous avez peut-être une musique en espéranto qui vous tient à cœur, ou en tout cas que vous aimez écouter?
Je suis vraiment profane en matière de musique. Je n'ai pas du tout d'oreille, et je n'ai pas la voix juste.
Donc... Vous n'êtes pas seule.
Donc je ne peux pas répondre sur des questions de musique.
C'est pas grave.
Merci en tout cas pour toutes ces réponses.
Voilà, merci de votre temps, de vos réponses.
Si je pourrais ajouter que j'ai eu quand même le plaisir de rencontrer des gens très différents, de différents continents, à l'occasion des échanges qui sont organisés pour des visites étrangères. J'ai eu l'occasion de recevoir ici un Népalais, deux Japonais, un Polonais, une jeune fille de Yalta, qui était encore en Ukraine à cette époque-là, monsieur d'Ukraine, mais d'Ukraine du côté actuellement occupé par la Russie. Je ne sais pas de quelle partie il était, lui, mais il doit être dans une mauvaise position actuellement. Donc j'ai fait des rencontres très intéressantes. Nous avons reçu aussi, dans le cadre des échanges organisés par les Français, un Argentin. Et c'est des contacts très intéressants.
Donc le côté international de l'espéranto, ça ne vous a pas déçu? Ce que vous vouliez au départ, vous l'avez trouvé?
Absolument. C'est ça qui est le plus intéressant, de parler avec des étrangers directement. Ça permet de voir les choses autrement que quand on entend parler par des intermédiaires. Et puis de voir qu'on se comprend très bien en espéranto. Le japonais, par exemple, il y a un seul mot sur lequel nous avons buté. Et c'est le problème avec les Asiatiques, prononciation du L.
Ah oui, parce que le L et le R, ils sont...
Et le R, ouais, enfin, c'était un seul problème de langue comme ça, puis sinon nous sommes très très bien compris. Donc ça a confirmé ce que j'avais ressenti déjà quand je suis allé faire en 54 le voyage en Hollande, c'est qu'on peut très bien parler des étrangers, bien que j'étais presque débutant à ce moment-là, et qu'on peut très bien parler des étrangers en espéranto et bien se comprendre, alors qu'avec les autres langues, j'ai encore pas réussi. Même si j'ai beaucoup pratiqué l'anglais, fréquenté beaucoup d'Américains et pas mal d'anglais, c'est quand même beaucoup moins facile qu'en espéranto.
Ouais, il n'y a pas le côté ouverture sur le monde.
Alors, bon, ce qui rend les choses un peu différentes, effectivement, c'est que quand on parle avec des espérantistes étrangers, ce sont des gens qui, s'ils ont pris la peine d'apprendre l'espéranto, ils sont ouverts sur l'étranger. Oui. Alors que quand on parle avec un Américain du fin fond de l'Amérique, il n'est pas forcément ouvert sur le monde ou sur l'Europe, etc.
Eh bien, merci beaucoup à vous.
Voilà, mais merci énormément.
Avec plaisir.